Bah, merci à vous de m'avoir invité. Moi, je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. C'est vrai que quand on est jeune, eurodéputé, il y a plusieurs défis. Alors, vous êtes jeune, alors vous devez être crédible. En plus, moi, je suis femme, donc vous devez être crédible. Et j'ai parti un petit peu de plusieurs associations, que ce soit Jeunes Noirs, en termes de logement, etc. Donc, on va être un peu mouvementiste, mais aussi crédible. Voilà, avec tout ça. Donc, trois, d'abord, j'en fais deux défis. La machine européenne, notamment le Parlement européen, est une machine qui est très très lourde. Contrairement, moi j'ai travaillé auparavant au Sénat français, qui est une machine un peu d'expert, parce qu'on travaille de fond, le Parlement européen a énormément d'expertise, et tout va très très vite, et ce ne sont pas des logiques de vote, par exemple, sur droite-gauche. Tout est une affaire de négociation, surtout sur un amendement, sur une directive, etc. Donc je suis en train de découvrir ça, je n'ai pas réponse à tout. Voilà, ça fait juste un mois que je suis là. Mais moi, j'ai envie de vous donner un petit peu qu'est-ce que j'ai envie de faire. Voilà. Et je vais partir d'un constat, c'est, on a souvent parlé des objectifs de la stratégie de Lisbonne en 2000, et c'était de dire, oui, il faut créer l'économie la plus compétitive dans le monde, qui est basée sur une croissance économique durable, avec plus d'emplois, une vraie cohésion sociale avec l'objectif de réduire la pauvreté d'ici 2010, 2010 demain. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on est très loin du compte. On est très loin du compte, et que la bataille, notamment contre la pauvreté et la précarité, eh bien, c'est loin d'être gagné. Aujourd'hui, 7% de la population européenne est pauvre, ou risque de l'être. Il y a une baisse significative de la pauvreté. Il n'y a pas de baisse significative de la pauvreté depuis 2000, notamment avec un parallèle en augmentation en Autriche, en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Pologne. Et des risques élevés qui concernent les femmes, les jeunes et les personnes âgées. Et aujourd'hui, on est sur un constat où les inégalités augmentent. Et donc, les questions qu'on peut se poser, c'est mais quelles peuvent être les réponses de l'Union européenne ? Les politiques de cohésion sociale peuvent-elles inverser cette tendance et favoriser, parce que moi je suis écolo, concilier l'environnement et la précarité. Et donc moi je vais essayer, durant mon exposé, d'essayer d'amorcer une réponse en essayant de présenter des réflexions. Parce que moi je suis membre de deux commissions, d'une part la commission l'emploi et les affaires sociales, et la commission des politiques régionales. Moi, tout d'abord, je pense qu'il est indispensable, alors que les débats sont ouverts au Parlement européen, de renforcer la dimension territoriale de la future politique de cohésion, en luttant contre la ségrégation spatiale et les inégalités sociales en lien avec la cohésion territoriale européenne. C'est vraiment important. Pourquoi je dis ça? Parce que les programmes de la politique de cohésion couvrent actuellement la période 2007-2013. Néanmoins, le débat sur la politique de cohésion après 2013 a débuté déjà au sein de la commission parlementaire. Et donc aujourd'hui, il est vraiment essentiel puisque le résultat de ces consultations déterminera un petit peu les priorités futures de l'Union européenne. Dans quel contexte on se trouve aujourd'hui? C'est qu'en décembre 2008, la Commission a publié par exemple un rapport qui s'appelle le rapport Région 2020 et qui conclut que dans le cadre de la politique doit être adapté pour aider les régions à mieux faire face à la mondialisation, au vieillissement de la population ainsi qu'aux défis climatique et énergétique. Et moi, je me dis que dans un de mes combats, dans mon mandat, j'ai vraiment envie de renforcer la prise en compte de la dimension urbaine dans la politique de cohésion d'après 2013. Je pense que les fonds structurels doivent permettre à l'Union d'intervenir dans les zones urbaines. Si l'Union européenne, dans le contexte de la ratification du traité de Lisbonne, elle veut promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale, elle doit miser, je crois vraiment, sur les villes. et profiter de la capacité importante de développer ces villes. Parce qu'il faut rappeler que 80% de la population en Europe vit dans les villes. Et cependant, si les villes constituent des centres, entre guillemets, de croissance, parce que je n'aime pas trop ce mot, elles gèrent aussi beaucoup d'exclusion sociale. Ainsi, par exemple, dans une même agglomération, qu'est-ce qu'on constate ? Eh ben, on constate une ségrégation du territoire, mais les écarts de cohésion entre certains quartiers de grandes villes sont plus importants que ceux entre les régions ou entre les pays membres. Donc, il faut faire de la cohésion économique, sociale et territoire au sein des zones urbaines. Je pense que ça va être là pour une des priorités de la politique européenne de développement régional. Et c'est aussi une manière de rendre plus visible et légitime, on parlait tout à l'heure de démocratie, l'utilisation des fonds structurels auprès des citoyens européens et par là même de rapprocher les décisions de l'Europe. Donc l'objectif d'inclusion sociale doit être clairement énoncé si on veut trouver des solutions aux fractures sociales dans les villes. Donc il faut que l'Union européenne apporte des réponses concrètes face à la situation sociale dégradée et surtout face à l'échec de la stratégie de Lisbonne, notamment en matière de lutte contre l'exclusion sociale. Ensuite, on aura que les politiques d'inclusion sociale s'inscrivent dans le cadre de l'agenda social européen et reposent sur une méthode ouverte de coordination. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça consiste à confronter les stratégies nationales sur la base d'objectifs communs qui sont fixés au niveau communautaire. Et moi, dans ce contexte, je pense que le rôle important que joue le logement social dans le processus de l'inclusion sociale doit être porté. Le logement doit être clairement figuré parmi les objectifs d'inclusion sociale avec ceux de l'accès au marché du travail. Et donc, l'Union européenne doit avoir une politique qui rappelle les devoirs, c'est-à-dire que chaque citoyen doit avoir un logement décent ainsi qu'aux services essentiels nécessaires à une existence normale dans ce logement, que ce soit l'électricité, l'eau, le chauffage, etc. Ensuite, le pacte social publié en 2008 va dans ce sens. On a que l'agenda social renouvelé souligne en particulier l'importance du logement dans le contexte de l'immigration, de l'intégration jeunes et de la politique générale de lutte contre la pauvreté. Parce que la question du logement est transversale, elle est essentielle, il faut qu'elle soit mise en œuvre dans une politique sociale européenne cohérente et efficace, et c'est pour ça que dans le cadre de mon mandat, je soutiendrai le renforcement de la prise en compte de la dimension logement dans le processus d'inclusion active. Pour moi, c'est important parce que toujours, je me suis engagée avec des associations qui luttent contre le mal logement. L'Europe a des outils, il faut vraiment les mettre à profit pour pouvoir faire en sorte que le logement constitue un des secteurs clés de l'Union européenne. Alors, parallèlement à mes commissions, moi je suis membre aussi du groupe, au sein du Parlement, vous avez des intergroupes. Les intergroupes parlementaires, ce sont des groupes de réflexion qui travaillent sur des questions précises. Et moi, je suis dans l'intergroupe Urban Logement, qui aujourd'hui ne s'appelle plus Urban Logement, s'appelle malheureusement que Urban. C'est-à-dire que l'une des priorités que ce groupe met en évidence, c'était la question du logement. Aujourd'hui, elle n'apparaît plus. Donc, il y a vraiment des questions qu'il va falloir à nouveau apporté dans le débat, parce qu'on ne veut plus parler du logement réellement dans les politiques européennes. Donc ça va être aussi une de mes batailles de devoir à nouveau l'apporter. Et puis, comme je suis écolo, je pense qu'aujourd'hui l'urgence c'est de lier la lutte contre le changement climatique et la lutte contre l'exclusion sociale. Alors c'est vrai qu'il y a eu plusieurs propositions, notamment la proposition en France de la fameuse taxe climat énergie qui a permis justement de lancer le débat, mais moi je pense qu'elle doit être amenée aussi au débat au niveau européen. Parce que je pense que de de nombreux citoyens européens restent exclus un peu des préoccupations environnementales qui sont liées à la lutte contre le changement climatique. Donc, ils ont été peu consultés, souvent peu pris en compte dans les politiques. Et donc, moi, je pense que ça aussi, tout à l'heure, vous disiez que ben, pour moi, ça va être un défi, c'est comment on réconcilie un petit peu les citoyens avec cette Europe. Et donc, moi, je crois aussi, c'est que sur toutes les questions d'actualité, dans les différents États, il faut que l'Union ouvre les débats sur des questions aussi urgentes. Et sur cette question de concilier la lutte contre l'exclusion sociale et le changement climatique, moi, je pense que aujourd'hui, les premières victimes du réchauffement climatique, c'est les pauvres. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous prenez toutes les études, notamment celle de l'ADEME en 2008, qui s'appelle le poids des dépenses énergétiques dans le budget, notamment des ménages en France. Alors, je ne vais pas comparer avec les autres pays, mais pour moi, c'est révélateur. C'est que les ménages les plus pauvres en France consacrent 15% de leurs revenus aux dépenses énergétiques contre seulement 6% pour les plus riches. Donc il faut constater aussi que ce sont en règle générale les bâtiments qui sont responsables de plus de 40% de la consommation énergétique et des émissions de CO2 en Europe. Par ailleurs, avec 27%, le secteur résidentiel représente le plus gros potentiel d'efficacité énergétique. Et donc là, il y a des enjeux vraiment importants, c'est quelles mesures permettent de lutter efficacement contre la précarité énergétique, comment ce problème est-il abordé au niveau européen et dans les différents États membres. Donc il y a plusieurs réglementations qui ont un impact direct sur la pauvreté énergétique, celle régulant la libéralisation des marchés de l'énergie d'une part, et d'autre part celle concernant l'efficacité énergétique. Et là, il y a une directive sur la performance énergétique des bâtiments en particulier qui est à l'ordre du jour. Et en revanche, le Parlement européen, sous la pression de quelques députés européens, commence à s'emparer de la question et a finalement adopté une charte qui s'appelle la Charte européenne des droits des consommateurs d'énergie, qui souligne le fait que l'approvisionnement énergétique est un élément clé pour la participation réussie des citoyens à la vie économique et sociale. Et donc, tout à l'heure, il y avait une question de savoir qu'est-ce que l'Europe fait. L'Europe, elle fait beaucoup de choses. Sauf que le vrai problème, moi, je crois, c'est que si les citoyens ne s'intéressent pas à l'Europe, l'Europe s'occupe d'eux, sans leur demander leur avis. Et donc, c'est vraiment un défi important sur ces questions-là, de lutte contre la pauvreté, l'efficacité énergétique, pour moi, qui sont vraiment des thématiques sur lesquelles il va falloir travailler et porter pour que les plus pauvres, soient les mieux à même d'être protégés par ce réchauffement climatique. Ensuite, toutes les questions concernant... c'est vrai que dans le cadre de mon mandat, il y a la commission qui engage et finance la mise en œuvre de projets qui privilégient notamment l'efficacité énergétique dans les logements sociaux et qui garantit l'accompagnement social des mesures de rénovation technique. Et j'ai retrouvé que le 2 avril 2009, le Parlement européen a adopté la proposition de modification du règlement du FEDER afin de rendre éligibles les dépenses liées à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables dans les logements. Et tous ces projets-là permettent la rénovation énergétique qui s'inscrit dans le cadre de la cohésion sociale et que l'enveloppe du FEDER pourra être affectée à ces projets et fixée à 4% de l'enveloppe de chaque État membre, soit un potentiel environ de 8 milliards d'euros à l'échelle des 27 millions d'euros pour la France. Ensuite, je m'engagerai pour la reconduction de l'éligibilité du FEDER aux dépenses d'investissement en matière de performance énergétique du logement 2014 et 2019. Et d'autre part, je demanderais que soient pris en compte dans l'éligibilité au FEDER les contraintes de financement de l'investissement pour l'amélioration énergétique, telles que celles liées aux conditions de recouvrement de l'investissement auprès des locataires à revenus modestes. Tous les locataires, je pense, doivent indépendamment de leurs revenus pouvoir bénéficier des améliorations énergétiques de leur logement. Donc, on parlait de transparence. Moi, je pense que l'un des rôles du député, c'est qu'il faut vraiment qu'il prenne en compte et défendre les intérêts des habitants et des consommateurs en améliorant la transparence et l'accès à l'information. Les citoyens européens n'ont pas énormément accès aux informations. Et donc, moi, je ne vais pas ouvrir ici le débat sur la bonne gouvernance, mais je veux juste profiter peut-être de la semaine européenne de la démocratie locale lancée par le Conseil de l'Europe pour conclure sur le fait que la participation des citoyens aux décisions qui les concernent à tous les niveaux, local, régional ou communautaire, c'est le principe de base de l'Europe citoyenne pour laquelle moi j'ai été élue et je m'engagerai au cours de mon mandat de la ramener au Parlement européen. Voilà.
Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Troisième type de voix par rapport à ce matin, et c'est toujours le jeu de débat. Ce sont des voix très différentes et c'est ça qui est intéressant dans le débat. On a un petit peu de temps pour discuter, notamment ces questions de démocratie qui ont été évoquées au moins par les intervenants. Et puis on va, voilà, on a trois personnes sur la table. Des interventions pour des questions pour Karim Benedi pour commencer. Présent, je sais
pas. François Abraignac, agence d'urbanisme de l'agglomération lyonnaise. Je comprends que l'Europe aide les collectivités sur certaines politiques territoriales, les grands sujets d'infrastructure qui mettent les régions en lien, la coopération internationale, des grands équipements et tout ça, là, on comprend bien. Mais sur les sujets que vous évoquez, tout le monde s'en occupe déjà, sur le logement social, sur les aspects. Là, je comprends, voilà, tant mieux si l'Europe s'en occupe, mais avec quels outils particuliers et spécifiques, et en quoi ça apporte une valeur ajoutée à ceux qui s'en occupent déjà.
Qu'est-ce que le gouvernement... On prend d'autres questions comme tout à l'heure.
Ouais. Dans ce même ordre d'idées...
Je suis représenté de
Luc Paveuf, président du Conseil économique et social d'Aquitaine. Je m'interroge sur la valeur ajoutée qu'apporte la dimension européenne si on est sur l'opportunité de mobiliser des fonds structurels pour dire, voilà... il faut, pour atteindre les objectifs de Lisbonne, dynamiser l'ambition des États sur un certain nombre de questions. Et je partage tout à fait l'idée que la question du logement est au cœur aussi des enjeux de lutte contre la précarité, etc. Mais j'aurais envie de dire, il y a des lois en France, par exemple, qui obligent à 20% de logements sociaux. Ils ne sont pas respectés. Alors, par exemple, ça peut être, est-ce que c'est aussi en donnant à l'Europe un rôle de gendarme? Et là, on n'est pas dans la question de mobilisation des fonds. Et puis, il y a un autre aspect, c'est que se développe un certain nombre de normes sur la question énergétique, des logements, etc., et où il me semble qu'il y a besoin de définir justement un processus à la fois normatif au niveau européen et puis peut-être aussi une gouvernance, parce que l'autre jour, Pierre Hadda nous a parlé des certificats d'économie d'énergie. On voit bien comment il a été possible d'embrouiller tout le monde dans le domaine de la certification de comptes financiers. Alors, si on doit demain certifier des choses qui procèdent d'une économie, il faut s'assurer que c'est une vraie économie et qu'on n'a pas généré en même temps des externalités et que donc ce ne soit pas remis sans doute à la responsabilité de chaque État. Or, on a l'impression que l'Europe a quelques ambitions en termes de vertu, sobriété, pacte énergie climat, etc., mais que dès qu'il s'agit ensuite de s'imposer des vraies procédures normatives pour se donner les moyens de ses ambitions, là, il n'y a plus personne. Et ça rejoint aussi la nécessité, je crois, d'avoir une vraie politique industrielle pour avoir les moyens de ses ambitions. Et moi, je crois qu'il y a un obstacle à ça, c'est qu'on dit on renforce la solidarité européenne, mais on la renforce à travers le développement de la concurrence. Et moi, j'ai du mal à identifier une vraie volonté stratégique pour le but. C'est-à-dire que qu'est-ce que la dimension européenne apporte de stratégique pour véritablement relever ces défis-là et que ce ne soit pas eh bien, des moyens financiers simplement supplémentaires. Et là, je ne le vois pas précisément. Je pense qu'on est toujours en panne d'une vraie stratégie.
Deux autres questions.
Oui. Albi Schmitt, directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en Alsace. Moi, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve en disant il y a peut-être une Europe qui pourrais se poser des questions sur ce qu'elle veut. Quelle image elle a, de quelle image elle a envie, de quelle ambition elle se donne, etc. Et ça m'a réjoui un peu d'entendre effectivement une vision un peu de ce qu'on pourrait attendre de l'Europe. Et est-ce que le Parlement, c'est pas cet endroit où effectivement on pourrait se poser les bonnes questions sur ce que doit être à terme l'Europe, pas quelle gouvernance elle doit avoir, pas quelles institutions elle doit avoir, pas quels moyens, si c'est des directives, des règlements, etc., mais ce que le peuple européen veut pour son avenir. Je ne sais pas. Est-ce que c'est le bon endroit?
Un boulot pour le Parlement.
Jean-François Faugeras, EDF. Je m'exprime plutôt en tant que citoyen et membre d'associations diverses et variées autour des questions de services publics. Je suis très sensible à la problématique que vous avez mis en avant autour de l'énergie et des populations défavorisées et de la question de la démocratie. Et pour rejoindre mon collègue qui s'est exprimé précédemment, l'enfer peut être pavé de très bonnes intentions. Toutes les intentions que vous développez là sont tout à fait louables et elles sont défendues par des quantités d'associations au niveau local, national, voire européen. Simplement, il faut faire très attention sur les dialectiques qui se créent dans des institutions qui viennent d'être décrites par monsieur. Je vais prendre l'exemple que vous citez, justement, parce que on va arriver en France à une situation où cette volonté que vous évoquez, couplée à l'alliance entre les libéraux et les verts, excusez-moi de mon intervention qui est un petit peu provocatrice, pour celle,
on peut se permettre, ça,
les dates où l'alliance entre les forces libérales qui ont porté la concurrence et les verts qui ont de très bonnes intentions, conduit à introduire des processus de déréglementation qui vont conduire en France, je dis bien en France, à une montée du prix qui va peser sur les populations les plus défavorisées. Et je vous supplie d'écouter les associations qui s'expriment et pas seulement d'écouter les grands groupes énergétiques. Écoutez les associations. Pour ma position, j'ai toujours défendu un service public. Un service public qui est très attentif, justement. Et ça rejoint, au-delà de la provocation, mon intervention servait simplement à pointer qu'il faut être très attentif aux mécanismes qu'on crée. Parce que vous avez bien décrit ce qui est des négociations entre des forces politiques et des États qui se coupent et qui conduisent quelquefois dans la mise en œuvre concrète, et c'est là où je le rejoins pleinement. Ça conduit à une contradiction sur le terrain qui font qu'aujourd'hui, on a des exemples concrets, vous savez bien, et nos amis britanniques peuvent en témoigner, les mécanismes de déréglementation pesaient extrêmement lourd en matière d'énergie sur les populations défavorisées, que ce soit au Royaume-Uni, et c'est parti en France, et ça va continuer si on n'y met pas un certain nombre d'éléments de bornage, ce que j'espère les politiques français, qu'ils soient droits.
Merci. Ça me donne quelques petits éléments pour intervenir.
Oui, je n'ai pas réponse à tout.
Alors, en principe, sur l'Europe, personne.
Voilà, c'est ma feuille de route pour les 5 ans à venir. Et que je vais essayer d'y arriver, mais je ne vais pas y arriver toute seule. Donc, vous allez pouvoir m'aider aussi. Donc, pour vous répondre tout à l'heure à votre question, c'est vrai que les associations, quels que soient les États, travaillent sur ces questions-là. On est d'accord. Mais tout à l'heure, quelqu'un a énoncé, par exemple, les 20% de l'obligation des 20% de la loi de logements sociaux dans les villes en France, par exemple. Sauf que tout le monde ne les applique pas. Et le problème de fond, c'est que l'Union européenne impose un cadre législatif que les États ne peuvent pas déroger. C'est ça qui est important. Il faut savoir qu'en règle générale, les trois quarts des transpositions européennes, c'est les trois quarts des lois françaises. Ce ne sont que des transpositions, hein, ce que vous avez à l'Assemblée ou au Sénat en France. Les forces de loi sont beaucoup plus importantes ici en Europe qu'en France. Alors si on commence à mettre des objectifs très forts au niveau européen, les États ne pourront pas aller en dessous. Donc c'est une véritable aide aux associations de terrain avec lesquelles je travaille et avec lesquelles je milite. Voilà. Donc ça c'est un peu votre réponse, c'est de vous dire on est obligé de passer par l'Europe. Parce que l'Europe dicte un peu la politique des différents États. et notamment sur cette thématique-là. Alors c'est vrai qu'en termes de logement, on ne va pas assez loin, parce que l'Europe a quand même ratifié la charte fondamentale sur les droits humains, etc., en disant oui, chaque personne a droit à un logement digne et décent, etc., mais ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Donc ça, c'est la première chose. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question d'une volonté stratégique. Je trouve que vous avez totalement raison. C'est des vraies questions à se poser, mais moi, j'ai pas de réponse. Je viens d'arriver, donc je ne peux pas vous donner de réponse. Je veux bien vous revoir d'ici un an pour voir si stratégiquement j'ai trouvé quelque chose. Mais pour l'instant, vous avez raison. C'est une vraie question de fond sur laquelle il va falloir travailler. Voilà.
Je crois que Marc voulait répondre. Il a un mot sur le côté britannique.
Non, pas le côté britannique, le côté européen. par exemple, on commence avec 3 mythes et on a déjà 2 de ces mythes. Il y a un mythe que l'Europe a déréglementé et le deuxième mythe que l'Europe a imposé sur les États membres. J'ai plusieurs défauts et j'ai un défaut très, très important, comme Renaud, d'être une partie juriste. Et juridiquement, le traité de Rome est très très basé sur des articles qui sont des articles de concurrence. Alors bien sûr, ce qu'on entend par concurrence, c'est une chose. On peut avoir des versions très différentes. Il n'y a pas un seul type de marché. Donc l'Europe commence en grande partie de cette base juridique. Donc, si l'Europe dit, voilà, il n'y a que la concurrence, il veut mal comprendre la base de l'Europe. Deuxièmement, cette concurrence est souvent contrebalancée par des mesures très très importantes de re-réglementation. Je pense qu'il faut faire attention à la terminologie. Troisième point je dirais, c'est que là, on parle d'imposition. Si souvent les États membres et les intérêts nationaux qui ont voulu les directives européennes. Renaud nous a bien décrit les processus, il l'a fait de manière technique, mais si on regarde de manière politique, très souvent ce sont les États membres en coopération avec la Commission qui préparent les directives, aidés par les grands groupes économiques et industriels. C'est très utile de dire ah oui, la Commission nous a imposé, mais simplement c'est faux dans la grande majorité des cas. Demain, on regarde ça beaucoup plus spécifiquement avec des cas de l'énergie, des télécoms et tout ça, mais je pense qu'il faut avoir un autre perspective.
On fera encore 2 questions, 4-3, 4 mails répond, puis on va déjeuner. J'ai eu 3 petits déjeuners ce matin ou 2, enfin on va quand même aller déjeuner. Et 3 questions, on ira sur le restaurant nous attend. Alors j'ai 1, 2 et 3.
Il y a un vrai débat, effectivement, parce qu'il y a aussi des préjugés qui sont entretenus et sur la confusion justement de ce que fixe l'Europe et de ce que font les États. Donc il ne faut pas que ni les politiques ni les fonctionnaires se trompent. Moi, juste un exemple, les directives Natura 2000. En France, il y a un cadre fixé par l'Europe, des objectifs, un calendrier. Et en France, parce que l'État a mis un peu de temps à réagir, parce qu'on pensait toujours qu'on pouvait y échapper, quand nous, élus locaux, on a été sur le terrain à mettre en œuvre cette directive qui venait de l'État, parce que ça n'avait pas été déconcerté, négocié, anticipé, etc., les meilleures sont celles des directives Natura 2000 en mer, c'est extraordinaire, on avait tellement de retard qu'au dernier moment, on a vu arriver dans nos assemblées départementales, locales, à délibérer sur des périmètres, mais qui était insensé. Et donc, que disent les élus locaux et les populations locales? C'est de la faute de l'Europe. Et encore une fois, ça éloigne les citoyens de l'Europe. Donc, il faut faire. Moi, vous avez compris que j'étais assez critique sur un certain nombre de points. Mais il faut quand même, il faut être objectif et attentif à ça.
Moi, je voudrais vous poser
une
question. Ah, pardon, François Gaucher, agence Hyper France et commissariat à l'énergie atomique.
Mais je pose une question quand même pour ça.
Après, on organise la chose nucléaire à débat entre vous deux.
La question, c'est pour rebondir sur une question que j'ai posée avant. J'ai entendu parler de stratégie. Vous nous avez présenté quelque part un programme, pas nécessairement un bouquin sur tout, mais en tout cas une vision que vous avez. Et moi, je me pose la question.
Il y en a qui ont fait
le bon. Exactement. Et la question que je me pose, c'est finalement de quels outils disposez-vous pour implémenter cette vision-là, puisque quelque part, ça revient au monopole de l'initiative des lois, si j'ai bien compris, ou c'est pas vous qui êtes aux commandes. Est-ce que vous n'êtes pas, est-ce que vous n'êtes pas frustré de cette situation-là, et je provoque encore un peu plus en disant, est-ce que vous n'êtes pas des demi-parlementaires, finalement, puisqu'il vous manque quelque chose qui fait un parlementaire assez fortement. Voilà.
Là, c'est une femme.
Ah oui, ça.
Le déjeuner va être animé dans tous les cas.
Ma question, moi, je travaille à la région Basse-Normandie, et ça, ce que j'entends quand même, c'est une vraie interrogation sur l'objectif même de la politique régionale, puisque quand même, vous avez dit que dans votre idée, la politique régionale devait être un outil pour la cohésion économique, sociale et territoriale, c'est-à-dire pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un outil pour la stratégie de Lisbonne, enfin, c'est quand même 75% d'earmarking et compagnie. Et donc, moi, ce qui m'intéresserait, mais peut-être qu'on en parlera cet après-midi avec Patrick Sénès, mais ce qui m'intéresserait, c'est de savoir où on en est dans le débat sur à quoi doit servir la politique régionale. Est-ce que c'est qu'un instrument pour la stratégie de Lisbonne, ou est-ce que c'est un instrument pour la cohésion territoriale, CF, ce qui figure dans le traité et qui sera bien ratifié un jour, puisqu'on a entendu que tout le monde est optimiste à ce sujet-là. Et aussi, ma question, c'est les villes, et les régions en termes de cohésion territoriale, vous les mettez où dans votre système? Il y a plus des villes que des régions, enfin, en tout cas en tant que maille.
Alors, je réponds concrètement, non, je ne suis pas plus. Non, je ne suis pas une demi-parlementaire. Alors, le but, vraiment, c'est.
Oui, je suis en train de.
Comment?
Oui, je suis en train
de. Oui, je suis en train de.
C'était pas la question.
D'accord. C'est monsieur qui fait de la provocation.
C'est lui, alors là.
Concrètement, il est vrai que dans les commissions, dans les groupes politiques, lorsqu'on est nouveau député, on ne comprend pas tellement comment ça marche. Sauf que les commissions ont tellement de domaines qu'il faut se spécialiser très vite. Et quand vous me dites, vous êtes un demi-parlementaire et comment vous allez faire? Alors, la première chose à faire, c'est prendre des sujets sur lesquels vous voulez porter et comment vous allez les mettre en évidence au sein de votre groupe politique, au sein de votre commission, et quelles sont les initiatives que vous allez porter durant les 5 ans pour que ces thématiques soient dans les débats européens et dans les débats français. Ça, c'est important. Alors, je vous donne un exemple. Moi, je voudrais travailler donc sur la rénovation urbaine, sur l'efficacité des bâtiments, etc. La première chose, c'est que j'ai demandé au sein de mon groupe et de la commission un rapport. Très vite. Donc là, c'est en train de se négocier, je suis en train de voir, machin. Ensuite, je suis en train de faire des auditions, de savoir, les fonds du FEDER ont été utilisés les années précédentes. Moi, je veux un bilan, savoir qu'est-ce qu'on fait réellement en termes de transparence avec les fonds du FEDER. Alors, je suis un petit peu peut-être naïve parce que personne ne pose des questions dans ma commission en disant, oh là là, elle vient d'arriver, elle pose des questions un peu indiscrètes, c'est un peu bizarre. Moi, je crois que c'est ça qu'il faut faire. C'est qu'il faut réveiller, enfin, je ne suis pas méchant, mais il faut réveiller un peu cette institution. Il faut anticiper, il faut prendre des initiatives qui, moi, me paraissent importantes. Donc, non, je ne suis pas une tenue parlementaire, donc il y a le travail de technicité parlementaire. Et ensuite, moi, je suis très attentive à regarder tous les projets qui arrivent, toutes les directives, etc. Je lis et j'anticipe avec des amendements. Et dans le débat en séance ou en commission, je défends les amendements avec des positions clés. Donc, je fais le travail d'un parlementaire. Voilà. Donc, ça, c'est la partie. Et puis, là, on n'a pas encore de commissaire, mais ça va arriver. Une fois que le commissaire sera là, je vais un peu m'amuser à les interroger plusieurs fois, même en débat, pour avoir des réponses concrètes sur des sujets clés. C'est ça aussi. Moi, je reçois des coups de téléphone ou des mails, et les gens me disent « Mais qu'est-ce que vous allez faire sur telle thématique ?» Sauf que je n'ai pas la réponse, puisque pour l'instant, il n'y a pas de commissaire. Et je ne sais pas, même si M. Barroso a proposé un très joli catalogue de mesures avec une Europe sociale, proche des gens, etc. Ce sont des mots. Concrètement, quelles mesures la commission va être à même de porter. Alors, ensuite, je ne peux pas être toute seule. Parce que lorsqu'on est au Parlement européen, il faut être nombreux. Notamment sur la même position pour qu'elle avance. Alors, c'est pour ça que moi je suis dans le groupe Urban Logement, parce que c'est un groupe vraiment qui travaille beaucoup et qui amène des nouvelles idées au sein du Parlement européen. Donc il y a ça, et puis moi je suis en train aussi de créer d'autres petites alliances, donc je vais voir d'autres députés en me disant oh, la question du logement c'est important, qu'est-ce que tu en penses, etc. Voilà, il faut vraiment créer une force. C'est difficile, ça prend du temps, mais on va y arriver, promis. Voilà. Il y avait une autre question. C'était vous, je crois.
Une question sur la discussion sur la...
Sur la stratégie, oui, bah, vous avez raison.
Le fond de la politique régionale.
Bah, ça, vous allez peut-être voir cet après-midi avec un expert.
Oui.
Oui. Mais vous avez raison de dire qu'il ne faut pas privilégier les villes par rapport au détriment des régions. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Moi, je crois que sur ces deux notions, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut faire de la cohésion territoriale et porter les villes, mais aussi les régions. Alors, maintenant, moi, concrètement et techniquement, je n'ai pas encore analysé vraiment le fond de ça. Mais je serai là cet après-midi pour écouter attentivement ce qui va se dire.